À voix nue, Philippe Bresson, cette semaine avec
Jean-Claude Dreyfus.
Anatomie d'un joueur. Deuxième épisode, l'échange.
Je suis actrice, vous savez. Je joue sur le théâtre. Le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est ?
Non.
L'homme s'ennuie. Et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Et ne sachant de rien comment cela commence ou finit, c'est pour cela qu'il va au théâtre. Et il se regarde lui-même, les mains posées sur les genoux, et il pleure et il rit, et il n'a point envie de s'en aller. Et il regarde et écoute comme s'il dormait.
L'œil est fait pour voir et l'oreille pour entendre la vérité.
Qu'est-ce que la vérité ? Est-ce qu'elle n'a pas 17 enveloppes comme les oignons ? Qui voit les choses comme elles sont ? L'œil certes voit, l'oreille entend.
Vous aviez tout juste 7 ans. Lorsqu'une fleur, un nénuphar peut-être, s'est mise en tête de déployer ses pétales dans votre jeune poitrine à bout de souffle. 3 longues années de soins dans un préventorium où, par chance, vous avez l'occasion de vous initier au théâtre. Une fois guéri, un dédale de chemin buissonnier fera de vous et sur différentes scènes, d'abord un magicien, puis un transformiste de cabaret, jusqu'à ce que Geneviève Page vous ouvre les portes du théâtre de la ville. Commence alors le parcours pantagruélique d'un comédien aussi libre qu'insatiable, plus de 300 pièces à ce jour, qui de rôle en rôle, dirigé par Anne Delbey, Claude Régis, Jacques Lassalle, André Engel, Benno Besson, Jacques Rosner et tant d'autres, n'aura de cesse de se transformer. Bonsoir Jean-Claude Dreyfus.
Bonsoir Philippe Bresson.
Nous avons entendu en ouverture de cette deuxième partie consacrée au jeu dramatique un extrait de L'échange de Paul Claudel. Avec cette pièce, en 1976, vous évoluez pour la première fois sur la scène d'un grand théâtre populaire et c'est un succès, n'est-ce pas ?
Ça n'a pas été un succès pour tout le monde. Ça a été un succès pour le public et pour nous. Mais la famille Claudel n'était pas pour le fait que je joue Thomas Pollock-Nageoire. Pourquoi ? Parce que Thomas Pollock-Nageoire, d'abord moi je venais du cabaret, pour eux j'étais une danseuse de cabaret, et pour les Claudel, les ayants droit, même pour Jean Mercure.
Qui était le directeur du théâtre. De la ville.
Et au démarrage, il ne m'aimait pas beaucoup. Mais c'est vrai que ça a été un succès public, parce que cette pièce a toujours été jouée pour le rôle de Thomas Pollock-Nageoire, par des hommes de 60 ans. À l'époque, un banquier, on le faisait jouer par un homme de 60 ans, et à l'époque, j'avais 29 ans. Donc, il y avait un anachronisme pour eux, mais qui était juste, parce que j'ai énormément aimé Claudel, respecté Claudel. Des gens me disaient, mais comment tu fais pour jouer du Claudel? Je lui dis, c'est pas compliqué, Claudel, il y a qu'à le suivre ça, c'est musical, il y a qu'à suivre ça, son écriture, c'est temps. Et en fait, j'étais un petit peu comme chez moi, donc chez Claudel, quand il disait à Marthe qu'il peut acheter, il peut acheter le cœur de cette petite qui est là, moi, avec... On va appeler ça l'interprétation, mais le cœur que j'avais et les raisons profondes que j'avais de raconter l'argent, qui est toujours la même aujourd'hui, disons qu'on n'achète rien.
Mais c'est vrai que dans cette pièce, Pollock-Nageoire pense que l'on peut tout acheter, même l'amour.
Et j'ai raconté le contraire. Ce qui était extraordinaire, c'est que Anne Delbey avait fait un mélange entre la première version de Claudel qui avait été écrite quand il avait 18 ans et la deuxième version, il a tout réécrit quand il en avait 60. Et la version quand il avait 60, c'était beaucoup plus réac que la version de ses 18 ans. Et le mélange des deux faisait que ça me permettait de jouer là-dessus, moi.
Je fais le lien avec un film que vous avez tourné en 79, je crois, Les héroïnes du mal,
oui,
de Valerian Borovchik, qui traite aussi de ce sujet, l'amour qu'on n'achète pas. Et vous êtes un banquier aussi dans ce film.
Je suis aussi un banquier. Là, je montrais mes fesses dans le film de Borovchik.
L'échange de Claudel est aussi une pièce sur le théâtre. À propos du théâtre, quand on est acteur ou actrice, peut-on donner chaque soir quelque chose de vrai avec du faux ? Dans mes idées sur la manière générale de jouer mes drames, paru en 1912, Claudel écrit ceci. L'acteur est un artiste et non pas un critique. Son but n'est pas de faire comprendre un texte, mais de faire vivre un personnage. Il doit donc tellement se pénétrer de l'esprit et du sentiment du rôle qu'il incarne que son langage sur la scène n'en paraisse plus que l'expression culturelle. Vous voulez bien continuer, Jean-Claude Dreyfus ?
Souvent, ce qui émeut le plus chez un acteur, ce n'est pas tant ce qu'il dit, c'est ce qu'on sent qu'il va dire. Ce qu'il y a de plus important pour moi, après l'émotion, c'est la musique. Une voix agréable articulant nettement et le concert intelligible qu'elle forme avec les autres voix dans le dialogue sont déjà dans l'esprit un régal presque suffisant. Indépendamment même du sens abstrait des mots.
C'est vrai que vous avez joué dans plus de 300 pièces de théâtre ou c'est encore une légende ? Moi, ça me paraît énorme.
Écoutez, j'ai jamais compté, mais si vous le dites, c'est bien possible.
C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui l'écrivez dans votre livre.
Ah oui, oui. Oui, c'est comme je dis que j'ai une collection de cochons qui fait plus de 6000 pièces, mais je les ai pas vraiment comptées non plus. Non, c'est possible que j'ai joué dans...
Je savais que vous voudriez parler à un moment ou à un autre de votre...
Non, c'est pas pour la comparaison, mais je sais pas très bien. Je veux dire, quand on aime, on ne compte pas, et je sais pas très bien combien j'ai joué de pièces. Franchement,
alors si vous le voulez bien,
j'ai pas fait un concours, je déteste les concours, et donc je n'ai pas calculé combien de pièces j'avais joué.
300 pièces de théâtre. Ouais. Si vous jouez une pièce par an, cela me fait dire que vous avez au moins 320 ans.
À peu près, oui. Mais des fois, ça m'arrivait de jouer 3 pièces par an. Parce que dans le temps, vous savez, Philippe Bresson, on jouait des pièces qui duraient des fois un an et demi. Aujourd'hui, une pièce qui dure 6 mois, comme certaines que j'ai jouées qui avaient du succès, 6 mois, c'est énorme. Et après, on part en tournée.
J'aimerais que l'on s'attarde sur votre formation d'acteur. Vous êtes d'abord passé par le célèbre cours d'Ulin, même si vous n'y êtes pas resté très longtemps. Mais c'est surtout auprès de la comédienne et professeure Tania Balachova que vous êtes formé au métier d'acteur. Vous en parlez avec beaucoup de respect et de passion dans votre livre. Qu'avez-vous appris auprès d'elle ?
Auprès de Tania Balachova, déjà, on avait une complicité, elle et moi. Et j'ai appris l'essentiel de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire désobéir. C'est ça qui lui plaisait en plus. Elle montrait parfois des choses, et quand les élèves qui étaient là refaisaient les choses qu'elle montrait, elle était de mauvaise humeur. Elle les embêtait, elle disait non, non, vous n'avez rien compris. Et moi, je faisais ce que je voulais. Et vous savez, je n'ai pas beaucoup travaillé avec des textes différents. Je n'ai travaillé que, j'avais deux chevaux de bataille. C'était Les animaux malades de la peste.
La Fontaine.
De la Jean de la Fontaine. Et Les blouses blanches de Marguerite Monod que chantait Piaf. Et il y avait un jeu entre Tania et moi. À chaque fois que elle voulait, elle me disait, Jean-Claude, vous me passez Les blouses blanches, s'il vous plaît. Seriez gentil. Je lui dis, non, Tania, je l'ai fait la semaine dernière. Et je me faisais prier très peu de temps. Et je repassais ou Les blouses blanches ou Les animaux malades de la peste. Et en fait, moi, ça m'apportait énormément de... C'est une des raisons pour lesquelles je peux jouer une pièce 200, 300, 400 fois sans jamais m'ennuyer.
En 1978, Jean-Claude Dreyfus, aux Amandiers de Nanterre, vous travaillez sous la direction de Claude Régis. Les gens déraisonnables sont en voie de disparition de Peter Hanke, avec notamment Gérard Depardieu, Andréa Ferréol, Jean-Luc Bidault. C'était comment d'être dirigé par le grand Régis ?
D'un homme intelligent. C'est un homme difficile, c'est un homme difficile, et c'est un peu Mr. Jekyll et Mr. Hyde.
Ah bon ?
Oui, c'est-à-dire que moi je connaissais Claude Régis déjà avant, et quand il m'a engagé pour faire cette pièce, moi je sortais de la Grande Eugène, hein. J'avais pas fait énormément de théâtre dans des grands théâtres. Et on se vouvoyait, et on se vouvoyait toujours, et il était très dur devant les autres, et je l'ai entendu dire un jour, mais tu sais ici, en me tutoyant, là, ça n'est pas toi la vedette. Je ne sais pas ce que j'avais fait, mais je suis parti en claquant la porte. Et il y en a un qui était formidable, c'était Gérard Depardieu. Il est venu me rechercher au bistrot, il savait que j'étais au bistrot, j'imagine. On finit toujours au bistrot dans ces cas-là, pour me dire, t'inquiète pas, il est comme ça, c'est pas grave. Mais c'était un bonhomme
très ambigu et très très curieux. Mais comme c'est un homme intelligent, effectivement, on a fait une très belle mise en scène et on a été au bout de cette mise en scène. Et c'est, moi, j'ai aimé beaucoup. Et j'ai joué une autre pièce avec Claude Régis. C'était
La trilogie du revoir, je crois.
Et qu'est-ce que je jouais dans cette pièce ?
Je ne sais pas.
Ah, ben, je vais vous
dire.
Ah,
je crois que c'était un personnage presque muet.
C'était un personnage complètement muet.
Un peu à la Folon.
Alors, il m'avait engagé. C'était extrêmement intéressant. Je vais essayer d'être rapide dans l'anecdote. J'étais en train de répéter une pièce à la Cité universitaire qui s'appelait une pièce de sur Goethe. Et je faisais un personnage qui était le nègre de Goethe, qui était en renoncement littéraire derrière Goethe. Et Claude me propose ça, Claude Régis me propose ce truc. Je commence à lire la pièce, et puis je lui dis, bien, c'est bon. Là, on parle de lui toutes les pages, de mon personnage, et arrivé à la fin à l'entracte, enfin il arrive sur scène, et noir. Bon, je me dis, la deuxième partie, je lis. Je relis la deuxième partie, on parle de lui tout le temps. C'est un personnage extrêmement important dont on parle tout le temps. Mais il arrive qu'à la fin aussi, avec un petit garçon à la main, il est de face, il se met de dos, noir, fini. Je lui dis, sous de moi quand même. Hein. Il se fout de moi. Et je l'appelle, je lui dis, mais Claude, la pièce est extrêmement intéressante, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas jouer ça. Pourquoi vous ne le jouez pas, vous, puisque vous êtes là tous les soirs? Ah non, moi, je peux pas. Mais j'ai demandé au traducteur, je ne sais plus comment il s'appelait, le traducteur, il veut pas non plus, il préfère rester devant sa télévision le soir. Il y a que vous qui pouvez être là pour le jouer. Alors, je lui ai donné des conditions, j'étais bien payé, je ne venais pas aux répétitions, sauf deux dernières, pour savoir où je mettais les pieds, et je n'arrivais qu'à 10h du soir. Il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi j'étais employé à ne rien faire, quand même.
Avec Jacques Lassalle à la mise en scène, vous avez d'abord été en 1979 le comte d'Orimont dans Les fausses confidences de Marivaux. Et un an plus tard, à Chaillot, vous retravaillez ensemble sur un texte écrit par Lassalle lui-même. Mm-hmm. Un dimanche indécis dans la vie d'Anna. Lassalle était lui-même comédien. Est-ce que c'est différent d'être dirigé par un metteur en scène qui est lui-même acteur?
Il était pas bon comédien, hein. Et c'est pas un très bon comédien. Et un dimanche, elle était dans la vie d'Anna.
Moi, je l'ai vu, par exemple, dans le film de Garel, Le vent de la nuit. Je l'ai trouvé extraordinaire.
Bon, dans un film, il était très bien aussi pour parler avec les ministres pour obtenir des postes. C'est Jean-François Sébenin qui jouait au théâtre pour la première fois dans cette pièce. Et Jean-François Sébenin était extrêmement intelligent parce que il avait décidé de jouer à Chaillot, mais pas à Vitry ou je ne sais où. Il avait dit qu'il avait un film. Donc, Jean-François Sébenin, il y avait une séquence, par exemple, où il était assis sur une chaise et il y avait « Ne me quitte pas » chanté par Nina Simone. Et il attendait, il était sur la chaise, les bras en bas, et Jean-François Sébenin savait ne rien faire, puisqu'il faisait du cinéma. Mais dès que Jean-François Sébenin levait la paupière, Jacques Lassalle se roulait dans la salle entre le... Parce qu'il supportait pas.
Mais dites-moi, Jean-Claude.
Et après, attendez juste une seconde, je finis. Et après, à Vitry, c'est Jacques Lassalle qui a pris le rôle. Et je vous dis pas comment c'était. Là, il a la même séquence où il était les bras en bas. Il arrêtait pas de bouger. Il savait. Non, c'était un très mauvais comédien.
On a compris qu'il était très mauvais comédien, ne justifie pas le fait qu'il insulte les comédiennes. Et
je crois qu'il avait un problème avec les comédiennes.
Dominique Labourier, Daniel Lebrun.
Non, il n'a pas insulté Dominique Labourier ni Daniel Lebrun. Il a insulté d'autres actrices.
Moins connues?
Moins connues et qui étaient plus en faiblesse. Non, c'était pas bien. Et la seule femme qui est une sainte, qui était là avec nous, c'était Françoise de Lassalle, qui était sa femme. Quand on jouait une pièce avec Lassalle, à la régie, là-haut, le son, la lumière, il s'enfermait dans les loges pour ne pas la voir. Et sa femme, Françoise, l'empêchait de rentrer dans la salle pour qu'on puisse jouer. Il a donné une telle ambiance lourde que c'était très difficile.
Vous avez joué dans tellement de pièces de théâtre, on l'a dit, peut-être 300, peut-être 300 000, je ne sais pas. Je vais vous citer quelques pièces avec des metteurs en scène que moi je trouve importants et intéressants. Et vous allez m'arrêter quand un spectacle pour vous a été suffisamment essentiel dans votre parcours pour qu'on en parle. Ça vous va? Au tout début des années 80, vous collaborez à deux reprises avec André Engel.
André Engel, j'ai pu travailler avec lui, mais qui est un metteur en scène magnifique. Et la première fois, vous savez, où j'ai connu André Engel, j'étais très ami avec Daniel Émile Fourque. Et Daniel Émile Fourque m'avait
exceptionnel acteur qu'on voit notamment dans La Cité des Enfants Perdus.
Absolument. Et Daniel Aimé-Forgues m'avait invité à venir à Strasbourg pour un spectacle qu'avait fait André Engel sur Kafka, qui était extraordinaire. J'ai fait Lulu au Bataclan avec André Engel, qui était au Bataclan. On a refait le Bataclan.
La pièce de Frank Wedekind, c'est ça?
Qui était magnifique avec Anne Alvaro. Avec Anne Alvaro, qui était extraordinaire.
André Engel, il me semble qu'il a commencé sa carrière en tant que co-metteur en scène auprès de la compagnie Vincent Jourdeuil.
C'est possible.
Oui, c'est ça. Il a travaillé d'abord avec eux sur une co-mise en scène d'une pièce de Brecht. Et Jean-Pierre Vincent met en scène à l'Odéon 6 personnages en quête d'auteur de Luigi Pirandello. Avec vous, Jean-Claude Dreyfus, le sujet est passionnant. Sur le plateau, une famille vient déranger une troupe d'acteurs en pleine répétition pour leur demander d'interpréter un drame qu'ils ont vécu, mais les membres de la famille trouvent que les acteurs jouent trop ou trop bien, et ils décident d'interpréter eux-mêmes leur propre drame.
C'est extraordinaire, drame. Cette pièce.
Extraordinaire.
Et qui était le père, c'était Ugo Sognazzi. Ugo Sognazzi, qui parlait français, mais qui était extraordinaire, parce que le texte était difficile pour lui, et il était émouvant, il était extraordinaire.
Vous, dans la pièce, côté comédien, vous êtes le grand premier rôle.
Oui, oui, masculin. Mais c'est pas le plus grand rôle de la pièce non plus.
Toujours en 86, vous voilà Monsieur Dragon, intéressant, il me semble.
Ah oui, aussi. Avec.
Dans la pièce du dramaturge russe Eugeni Schwartz, mise en scène par Benno Besson, ouais. Dans sa propre traduction. Benno Besson, qui a commencé avec Brecht au Berliner Ensemble, qui est un petit peu son héritier spirituel. Alors cette pièce, Jean-Claude Dreyfus, elle résonne aujourd'hui d'une manière assez étonnante. Vous jouez la figure d'un monstre, ce dragon, incarnation du totalitarisme.
La dictature.
La dictature, la plupart des
habitants. Qui renaît tout le temps.
S'en accommode. Et ce que sous-entend Schwartz, il me semble, c'est que la monstruosité n'est pas le fait d'un seul, mais bien de toute une société.
On y est encore, hein.
Particulièrement.
Oui, on y est encore. On peut la remonter, cette pièce. Et Benno Besson avait monté déjà 5-6 fois cette pièce auparavant. Et là, on l'a recréée à Genève. Et il y a une chose qui s'est passée. Il y avait Pauline Serrault qui était dedans, qui était la femme de Benno. C'était très drôle. Dans la première scène, on était dans une petite cabane, vraiment pas grande, qui faisait 3 mètres carrés. On était 5. Il y avait Pierre Val, il y avait Julien Morel, il y avait moi, il y avait Pauline Serrault. Et Benno Besson voulait toujours qu'on soit droit, qu'on ne se regarde pas, et qu'on soit public, tout droit. Bon, parce que Benno Besson montait un peu sur le plateau pour vous donner les intonations. Moi, ça m'énervait un peu, franchement. Mais comme, et effectivement, j'aimais son théâtre, et c'est aussi un homme qui était passionné de théâtre et intelligent, ça s'est bien passé. Mais je suis pas fan quand on me montre les intonations. Et bref, moi, je ne pouvais pas beaucoup bouger parce que j'étais le premier dragon, était attaché par des tas de fils. Je faisais ça, comme ça, avec mon pouce. Et il y avait une flamme et tout partait. Je devenais genre Vincent Price, le deuxième dragon. Et puis un jour, il y avait un troisième dragon après. Et un jour, enfin, au bout de quelques représentations à Genève, Benno Besson est parti faire une mise en scène. Et il nous a laissé pendant 10 jours. Puis on est honnête, on n'est pas traître. On est resté, surtout que maman était là, il y avait Colline. En plus, on s'est dit, ils vont se parler sur l'oreiller. Mais on est resté, on avait pris le carcan de ne pas se regarder. Mais du jour où il est parti, les yeux ont quand même un tout petit peu tourné. On s'est deviné un tout petit peu les uns les autres. Et c'est là où il est extraordinaire et intelligent. C'est que quand il est revenu au bout de 10 jours, il a regardé le spectacle, il est venu nous féliciter en disant « ça a magnifiquement évolué ». Et juste une toute petite parenthèse, moi, parce qu'il avait déjà monté 6 fois, il y avait 3 dragons, et je lui ai proposé de faire, à la fin, les trois dragons étaient morts, les têtes valdinguaient sur le sol, et je me suis dit, à la fin, il y avait un flic qui arrivait, un agent de police, et je lui ai dit, mais Benno, peut-être ça serait bien, comme on voit ma tête, ça serait bien que je, sans en avoir l'air, que le flic, ça soit moi qui le fasse. C'est juste une apparition, et que ça redonnait vous savez, on coupe la tête de l'asticot, et il revient toujours. Hein. Et il l'a fait, il l'a accepté, et j'avais fait ce petit personnage à la fin aussi. C'est un magnifique spectacle hein, qu'on a joué au Théâtre de la Ville ensuite.
On aurait pu évoquer aussi Jacques Rosner, il me semble que c'est quelqu'un d'important.
Mon Jacques Rosner qui est parti il y a peu de temps, que j'aimais beaucoup, et dont j'avais joué la première pièce avec Marie-Christine Barrault.
L'étrange intermède,
une pièce d'O'Neill qui à l'origine durait 9h30.
C'est ça, c'est une pièce monstre.
9h30, ça durait. Oui. Sauf que on l'a coupé, on a fait une adaptation qui durait quand même 5h30. Et moi, j'étais avec Marie-Christine Barrault, on était à peu près 3h30, 4h sur le plateau. Et les gens arrivaient à 7h et repartaient à minuit quand même. Et on a fait Ruy Blas aussi, où on est parti beaucoup en tournée avec Ruy Blas.
Comment abordez-vous l'apprentissage d'un texte ?
Pour moi, ça a toujours été un cauchemar d'apprendre un texte. Et effectivement, depuis plusieurs années, je travaille avec un répétiteur. J'en ai usé beaucoup, des répétiteurs, parce que j'ai éliminé tous ceux qui vous montrent comment il faut jouer, et qui prennent ma place, il n'en est pas question, tous ceux qui n'ont pas de patience. Et là, j'en ai enfin trouvé un, depuis plusieurs années, qui est patient, et puis il est tellement content quand je suis au bout d'une feuille et que je la sais. Il s'appelle Reynaldo, oui. C'est un comédien de mon coin, en province, où je suis, dans le Minervois. Et c'est un jeune comédien et il est patient, il est vraiment, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Alors j'arrive à apprendre. Mais parfois c'est dur. Là je suis en plein apprentissage aussi de textes que je vais chanter bientôt. Et c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de douter que je vais y arriver et de digérer la chose, de l'oublier, de c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot l'apprentissage d'un texte. Et puis, alors je suis fasciné, par exemple, par des gens qui lisent une fois la page et ils la savent par cœur. Mais souvent, les gens qui apprennent très vite comme ça, ils s'ennuient très vite.
Votre formation d'acteur doit beaucoup, dites-vous, à Henri Langlois et à sa cinémathèque où vous dévoriez des stocks de films pour 1,50 €. Quels sont les films qui vous ont particulièrement nourri, inspiré, lorsque vous étiez un jeune homme?
Oh, il y en avait tellement des films à la cinémathèque.
Quelques-uns.
Bah, Frix, toujours. Je reviens toujours sur Frix. Le Golem, j'ai adoré ce film. J'ai lu le bouquin aussi. Parce que j'ai du mal parfois à lire. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai eu beaucoup de mal à lire, par exemple, La recherche du temps perdu. Et j'ai commencé souvent ce livre et je suis bête parce que au lieu de continuer à la moitié, je recommençais au début, je me suis toujours arrêté au milieu. Et Le Golem, qui est une chose un peu similaire, si on veut, dans la mesure où il y a des descriptions interminables, pas de brocart, mais de morceaux de mur, de fissures dans un mur. Là, ça m'a passionné. Je ne sais pas pourquoi. Et le film, j'avais adoré. Le film aussi. Mais j'ai vu beaucoup de films à la Cinémathèque, c'est vrai. Quand j'étais au Cours du Lin, qui était à Chaillot, et la Cinémathèque, à l'époque, était à Chaillot également, j'avais plus d'argent, vraiment, pour aller au Cours d'art dramatique, et Lucien Arnaud, qui en était le directeur, je me souviens, avait dit « Oui, mais alors, vous pouvez payer juste pour être auditeur, mais vous ne pouvez pas passer dans ces cas-là ». Donc, ce qui fait que j'allais à la Cinémathèque, qui me coûtait effectivement 1,50 €, 1 franc, pour voir des films. Et j'ai vu une multitude de films, et je me disais finalement, est-ce que c'est pas la meilleure école ? Avant d'arriver chez Balachova plus tard, évidemment. Et la Cinémathèque de Chaillot, je suis une des rares personnes, avec Daniel Schmitt, un jour, Langlois nous avait emmenés dans cette merveilleuse musée de la Cinémathèque que très peu de gens ont vu parce que ça a été inondé, ça a été complètement bouleversé. Je crois que très peu de gens ont vu ce musée que Langlois avait fait. Mais moi, je l'ai vu. On s'est baladé toute une journée dans cette espèce de dédale du cinéma qu'avait organisé Langlois.
Qui était donc à Chaillot.
Et c'était donc à Chaillot.
Jean-Claude Dreyfus, il faut que vous me parliez de Ravaillac. Non pas du Ravaillac catholique fanatique assassin, mais de votre canard. Je me suis laissé dire que votre apparition détonnante et étonnante dans l'univers de Chéreau, avec Ravaillac qui vous suivait comme un petit chien, avait marqué le metteur en scène à jamais.
Mais oui, parce qu'on voulait que je rencontre Patrice Chéreau qui montait, je sais plus, une pièce de Courteline, je crois. Et il répétait dans le 6e, dans une salle de bâtiment religieux, je ne sais plus très bien. Et à l'époque, j'étais assez coloré. J'étais habillé avec les grandes bottes, des
cuissardes.
Des cuissardes.
Carrément.
Et puis, le haut, j'avais un genre de Marcel coloré déjà aux couleurs LGBT et au crochet, fait au crochet. Et j'avais un canard que j'ai eu pendant quelques mois.
Un peu comme Nerval et son homard, vous savez? Il promenait son homard dans le jardin du Palais Royal.
J'avais appelé Ravaillac. En fait, c'était un canard que j'avais sauvé parce que il avait un problème aux ailes. Il pouvait pas voler. Il avait les ailes qui tombaient. Enfin, il était un peu handicapé. Ça m'avait ému. Et je l'avais pris avec moi. Mais il me suivait partout, hein. Il me suivait dans la mer. Il me suivait, partout comme un chien. Et j'avais emmené là. Bon, et puis je suis rentré, j'ai vu la répétition, je me suis assis, j'ai dû rester une heure à regarder, personne ne s'est occupé vraiment de moi. Et puis j'ai vu, je sais pas, les sacs noirs de course avec des poireaux qui sortaient, ça avait un côté un peu militant, je sais pas.
Mais quoi. Vous auriez aimé travailler avec Chéreau, vous?
Bah, je savais pas qui j'étais, moi, personnellement, à l'époque. Oui, sûrement, après coup, j'ai vu toutes les mises en scène de Patrice Chéreau. On s'est rencontrés, après, la vie a fait qu'on s'est rencontrés, et qu'il s'est remémoré cette apparition bizarre de moi.
Très extravagante,
voilà. Et,
surréaliste.
Il avait monté, je sais plus ce que c'était, la pièce qu'il avait montée, et il m'avait pas demandé de la jouer, il avait fait jouer par un acteur, et l'acteur ne pouvait pas jouer pendant la tournée, une dizaine de représentations. Et tout d'un coup, ça m'est arrivé sur moi. Et là, j'ai dit non, parce que apprendre un texte pour dire présentation, franchement, ça m'emmerde. Ouais.
J'évoquais Gérard de Nerval. Il me semble que chez vous, l'extravagance a quelque chose de plus ludique, plus joyeux, de moins désespéré. Nerval a fini pendu au barreau d'une grille.
L'insouciance.
Voilà.
L'insouciance
c'est un peu différent.
Qui me guette toujours, l'insouciance. Vous savez, je parlais avec Mylène de Mongeau, avant qu'elle nous quitte, à Mylène de Mongeau, qui était un tout petit peu plus âgée que moi. On parlait de l'insouciance que l'on avait quand on était dans ces années-là, dont vous me parlez, de ma jeunesse. Et que finalement, nous sommes des gens qui ont gardé la même insouciance avec le temps qui passe. Et c'est ça qui est merveilleux, je trouve.
Demain, si vous êtes d'accord, Jean-Claude Dreyfus, nous continuerons à parler de théâtre et de jeu. Ça vous va?
Je vais réfléchir. Et si je ne suis pas d'accord, on fait quoi?
Ben écoutez, alors je poursuivrai la partie tout seul.
Non, on peut parler chiffon, on peut parler de tas d'autres choses. De parler d'autres choses, ça fait partie de ma vie et du théâtre aussi. Mais parlons théâtre. Je vous suis.
À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue. Chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Loïc Duros, réalisation Manouchak Fachaï. Une série de Philippe Bresson à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.